carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Jusqu'au 21 juin 2010, le musée du Louvre présente Toussaint Dubreuil, premier peintre d'Henri IV. Une cinquantaine de ses dessins, parmi les plus beaux et les plus méconnus de l'art français, et quelques-uns de ses rares tableaux sont accrochés dans les salles Molien, au premier étage de l'aile de Nons. Dominique Cordelier, conservateur en chef au département des arts graphiques du musée du Louvre et commissaire de l'exposition, évoque pour nous ce Toussaint Dubreuil, grand maître du dessin, mais pourtant presque inconnu du grand public. Bonjour Dominique Cordelier.
Bonjour.
Vous avez passé environ 25 ans de recherche, de découverte admirative de ce grand dessinateur. Comment et pourquoi le cabinet des dessins du Louvre possède-t-il autant de feuilles de Dubreuil ?
Oh, c'est une histoire très simple. D'abord, je vais préciser que je n'ai pas passé 25 ans. Disons que les premières études remontent à 25 ans. Si j'avais passé 25 ans à étudier Dubreuil, j'aurais passé plus de temps à l'étudier que lui à produire ses œuvres qui sont admirables, comme vous le disiez. Parce que lui, sa carrière n'excède pas 20 ans.
Oui, mais ça n'empêche pas que ça peut donner envie de le connaître pendant 25 ans après.
Certes, mais bon, il se trouve que je n'ai pas consacré autant de mon temps à la recherche, mais c'est vrai que la recherche, telle qu'elle aboutit aujourd'hui au Musée du Louvre, a profité de deux choses. Effectivement, la possibilité de revenir sur le sujet pendant ces 25 années passées, tout en allant voir ailleurs de temps en temps. Et puis aussi, c'est la deuxième chose, à profiter de l'extrême richesse du fonds que vous avez signalé, du fonds de dessin du Musée du Louvre. Richesse qui est à la fois très grande et toute relative. Très grande parce que nous avons environ 70 dessins de l'artiste, on en présente 50 aujourd'hui, ce qui représente 90% de l'œuvre conservée de Toussaint Dubreuil. Ça s'explique de façon très simple. Si le Louvre a aujourd'hui cette collection exceptionnelle de dessins de Dubreuil, c'est qu'il est l'héritier du cabinet du roi. Qu'en 1671, Colbert a fait acheter pour le cabinet du roi la collection d'un banquier colonnais qui était installé à Paris, Évrard Jabac, lequel Évrard Jabac avait eu la chance de mettre la main sur des dessins qui avaient appartenu antérieurement à François de Lanoue et encore avant à Israël et Christophe Desneux, qui étaient les oncles de François de Lanoue, qui avaient constitué un des plus étranges et les plus merveilleux cabinets de curiosités qu'on pouvait voir à Paris avant en 1635. Donc si aujourd'hui on a la possibilité de voir au Louvre les très belles feuilles de Dubreuil, on le doit à ces deux casse-noisettes, à ces cousins ponces que sont Israël et Christophe Desneux.
Mais dans le catalogue qui retrace votre exposition, j'ai vu aussi qu'il y a des feuilles qui proviennent de Pierre Crozat. Alors, je sais que c'est au 18e Pierre Crozat, mais ça veut dire quand même que c'est un grand collectionneur, Pierre Crozat, et que lui aussi s'était un peu intéressé à Toussaint Dubreuil.
Il s'est intéressé à Toussaint Dubreuil et il s'est surtout intéressé à la deuxième collection constituée par Évrard Jabac après l'achat de 1671.
C'est toujours Évrard Jabac, alors.
Oui, en 1671, ce banquier qui connaît toutes les règles du marché n'a pas tout vendu. Il en a gardé. Il a reconstitué à partir de ce qu'il avait gardé une seconde collection qui a été étudiée il y a quelques années. Et ce qui passe à Crozat, c'est ce second noyau de la collection Jabac.
Très bien. Donc, je vois que ce sont toujours des gens, de vrais collectionneurs très raffinés qui s'étaient occupés de ce personnage. Vous dites aussi que les amateurs parisiens de l'époque l'apprécièrent beaucoup et tout de suite, c'est-à-dire dès les années 1580. J'ai précisé qu'il serait né soit en 1558, soit en 1561, et en tout cas, il est mort en 1602. Donc, quand je dis que dès les années 1580, il est apprécié, c'est très tôt dans sa carrière. Pourtant, de ce que l'on sait de sa formation, rien ne le préparait à un tel succès. Dominique Cordelier est-il devenu, à 24 ans, un maître peintre aussi apprécié sur la place et qui l'a formé ?
Alors, pour la formation de Toussaint Dubreuil, on a peu d'informations, mais on en a. Elles viennent pratiquement toutes de Karel van Mander, qui écrit une vie des peintres des Pays-Bas, qui a été publiée en 1603-1604. Et van Mander, en trois lignes, fait un petit portrait de Toussaint Dubreuil, effectivement, qui témoigne de beaucoup d'admiration. Il consacre un paragraphe aux maîtres parisiens, qui sont ses contemporains, en fait. Et dedans, Dubreuil, qu'il signale comme mort très jeune et très talentueux, occupe une place de premier plan. Alors, comment Dubreuil a pu occuper cette place de premier plan ? Effectivement, rien ne le préparait à devenir le peintre, vous avez dit premier peintre, j'ai tendance à le dire aussi, le titre de premier peintre n'existe pas véritablement. Il est peintre de la Chambre du Roi.
Il avait été peintre d'Henri III.
Par les sources du XVIIIe siècle, on pense, il y a un très grand connaisseur du XVIIIe siècle, Pierre-Jean Mariette, excellent collectionneur de dessins, qui affirme dans ses notes à l'abécédario d'Orlandi...
Mariette fils ou Mariette père ?
Mariette fils.
Mariette fils.
Pierre-Jean, oui. Mariette, qui dit que Henri III l'avait fait son peintre. Ce qui est très vraisemblable et ce qui vous donne absolument raison quand vous dites qu'il aurait connu une très grande notoriété dès les années 1580. Notoriété dont témoigne finalement le fait que c'est à lui qu'on demande les dessins pour les petits reliefs de la masse de l'ordre du Saint-Esprit, fondée en décembre 1578 par Henri III, et dont le trésor de la chapelle a été réalisé par des orfèvres parisiens, par François Dujardin en particulier, avant 1584-1585, si on en croit les poinçons d'orfèvres qui sont apposés sur la masse.
Et ces dessins, on les a justement dans l'exposition, les dessins préparatifs à l'élaboration de la masse de l'ordre du Saint-Esprit.
Oui, on les a, et justement, il nous donne un éclairage tout à fait singulier sur la formation de Dubreuil. Ça fait de Dubreuil un artiste qui a ce sens du style un peu grêle, un peu protocolaire.
Longiligne.
Ce sens de, très longiligne, oui, avec ce sens de l'étiquette qui l'emporte sur le souffle ou sur la grâce.
Il a 24 ans en ce moment-là. Alors, le souffle, il faut lui laisser du temps quand même pour l'acquérir.
Il va l'acquérir. Oui. Il va l'acquérir, mais à ce moment-là, bon, le talent, il l'a déjà. Il a les yeux ouverts sur le monde qui l'entoure. Il est simplement dans le milieu parisien. Dans le milieu parisien, à ce moment-là, la figure qui domine, c'est Antoine Caron.
Oui. Alors, Antoine Caron, vous pouvez nous préciser un petit peu...
C'est un peintre qui a une très très longue carrière, qui commence à Fontainebleau, mais qui va en fait se dérouler véritablement à Paris. Il va être proche des milieux, disons, catholiques, quelquefois même très apprécié par des personnalités de la Ligue. En tout cas, il est le représentant de ce que Colin Eisler, dans une belle formule, a décrit comme le style miniature, un style comme ça, qui est très joliment manufacturé, mais un petit peu inconsistant, si on le considère du point de vue de la dramaturgie des figures, du point de vue de leur expression. Et c'est, en quelque sorte, la grande figure qui donne la répartie depuis Paris au grand art de Fontainebleau.
De la première école de Fontainebleau.
De la première, école de Fontainebleau, absolument. Oui.
Oui.
C'est quelqu'un qui connaît ses heures de gloire sous, disons, Charles IX.
Les Valois.
Henri III, les derniers Valois.
Les derniers Valois.
Les derniers Valois, tout à fait. Henri III aussi.
Donc des personnages assez hauts en couleur, dans le style élégant, mais peut-être peu raffiné à l'extrême.
Oui, c'est une élégance à la fois raffinée et épicée. Donc,
oui, mais dans les dessins, ça...
mais ça passe dans les
dessins. Ça passe dans les
dessins. Mais bien sûr, ça passe dans les dessins. Et donc, notre jeune Dubreuil, il se forme dans ce milieu-là, le milieu qui travaille pour la nouvelle chapelle de l'Ordre du Saint-Esprit aux Augustins, où Caron fait précisément le tableau d'autel de la chapelle. C'est ça qu'il a sous les yeux. Et donc... Déjà, très jeune maître, faire les dessins pour la masse de l'ordre du Saint-Esprit, rien ne l'y préparait, on l'a dit. Il n'est pas fils de peintre.
Oui, il est fils de cellier, vous avez dit.
Oui, il est fils d'un cellier.
Oui, et il est doué pour la musique, alors, l'équitation, le lancer de joute.
Oui, il est bon à la joute, il est excellent cavalier. Il a eu certainement une formation exceptionnelle de musicien, puisque tous les historiographes rappellent ses qualités de luthiste. Bon, et en revanche... On pense, en s'appuyant sur les sources, qu'il a eu un maître en peinture qui était un... Alors, Félibien dit un barbouilleur. Félibien, donc, c'est un historiographe du temps de Louis XIV, hein, dit un barbouilleur. Bon. Et on a le nom de cet artiste qui est donc Médéric Fréminet.
Qui est le père de son fils, c'est-à-dire c'est le père de Martin.
Le père de Martin Fréminet qui va, en 1602, prendre la suite.
Et qui va être un grand, lui.
Qui est un très grand, mais alors un extravagant. Le peintre, dans une formule un peu méchante, plus savant que judicieux. Il manque de jugement, il emploie toutes les capacités de son métier. C'est un homme qui ne sait pas tenir son brio. Et donc, il développe un décor à Fontainebleau. On peut le voir encore dans la chapelle de la Trinité au château de Fontainebleau. Il développe un décor qui est une suite de tours de force. Enfin bon, un art qu'il possède pleinement.
Mais c'est une riche nature.
C'est une riche nature. C'est un homme généreux des artifices et des formules. Et tout ça s'envole un peu trop au goût de ceux qui vont suivre. Mais Fréminet, effectivement, Martin Fréminet, c'est le fils de ce Médéric Fréminet, peintre de canevas, dit-on.
Donc de tapisseries.
De fausses tapisseries, de tapisseries faites à l'économie, c'est-à-dire on prend des grosses toiles,
on peint dessus.
On peint à l'effet dessus. Et ça coûte beaucoup moins cher que la tapisserie, bien sûr. Ce n'est pas un produit manufacturé de luxe, ça fait de l'effet, mais bon, on en conserve très très peu. Malheureusement, de ces canevas. C'est dommage parce que beaucoup des idées visuelles ont circulé à travers ce type d'objet. Mais c'est à ça qu'a été rodé au départ
oui,
Dubreuil.
Alors, pour en revenir à notre Dubreuil, en fait, il aurait presque eu une éducation de fils de famille. Parce qu'il avait toutes les cordes à son arc de l'éducation des fils de famille.
Avec une dimension qu'il ne faut pas négliger, qu'il a certainement été un bon lecteur, quelqu'un qui a su lire les poètes, qui a su lire les auteurs anciens. Alors, bien sûr, ce que l'on lit toujours, Ovid, mais aussi Callimaque, qui n'est pas une lecture courante. Et puis, des poètes modernes, c'est quelqu'un qui a lu Ronsard.
Il faut dire que Ronsard, c'était la grande période, puisque Ronsard, c'était le poète de Charles IX.
C'était le poète de Charles IX, enfin pas seulement de Charles IX, mais ça a été le poète de Charles IX.
Pour l'époque, c'est important.
C'est très important.
Que j'ai pris Charles IX.
Et puis d'autre part, Ronsard, c'est le parolier de beaucoup de chansons du XVIe siècle. Il ne faut pas oublier que c'est la poésie de Ronsard. Ronsard l'a concevée pour passer en musique. Donc c'est très très important et beaucoup de très bons musiciens du temps ont mis en musique dans des polyphonies extraordinairement complexes qui brouillent un peu le texte, il faut bien dire, les poèmes de Ronsard.
Peut-être a-t-il été quand même dans des écoles très sérieuses aussi pour apprécier tant la poésie et connaître les antiques et les modernes.
On n'en sait rien. Je supposerais une autre voie que celle de l'école pour arriver à ce genre de choses. Je pense qu'à un moment, Dubreuil change de cercle. C'est-à-dire qu'il passe du cercle parisien des artistes, disons, de la ville, même s'ils sont employés aux Augustins pour l'ordre royal du Saint-Esprit.
Il y a un côté mondain. Et puis, il va à Fontainebleau, c'est ça.
C'était pas un côté mondain, c'était plutôt un côté citadin. Hein. Être peintre à la ville, c'était dépendre des corporations, c'était vraiment être dans un système de métier réglementé, on disait un métier juré à l'époque, un métier très encadré par les règles corporatives. Et puis, tout d'un coup, probablement par son mariage avec la fille d'un peintre de Fontainebleau, qui s'appelait Ruggiero de Ruggieri, ce peintre de Fontainebleau, par son mariage avec cette fille Ruggieri, Toussaint Dubreuil passe dans un autre cercle, qui est le cercle des artistes actifs à la cour, pour le roi, dans le cadre de la maison du roi, et lui va très vite appartenir à la chambre du roi, c'est-à-dire, on peut le dire dans une formule assez simple, hein, il va appartenir à la personne du roi. Bon. Et évidemment, dans ce cercle-là, les codes de culture ne sont pas les mêmes. Les codes juridiques ne sont pas les mêmes non plus. On n'est pas asservi aux règles de la corporation. Et on a un espace de liberté et une ouverture sur toute la maison du roi et qui comprend des musiciens, des poètes. On a de bons voisins.
Hein. Oui, il y a une espèce d'émulsion artistique qui fait qu'il va changer de style.
Il y a l'émulation artistique et puis il y a le fait que effectivement Fontainebleau est un milieu où depuis en gros 1535...
Oui,
François Ier. Et jusqu'en 1570, on a produit une masse de décors, de grands décors dans le château, sous François Ier, sous Henri II essentiellement, mais encore un peu par la suite, en particulier sous Charles IX. Et que ces décors agissent, ça ouvre les yeux à Dubreuil, ça ouvre les yeux sur un autre monde que celui qu'il pouvait connaître simplement à travers les artistes parisiens. Et ça lui ouvre les yeux sur un monde pour qui le prestige est tout. C'est un art, André Chastel l'a magnifiquement dit dans une formule très très ramassée, l'art de Fontainebleau, de la première école de Fontainebleau, celle qui existe donc entre 1530 et 1570. C'est un art qui avait l'ambition de faire que le décor du palais soit une mythologie en acte.
Tout ça pour faire une espèce de propagande royale avec les rois valois ?
C'est pas seulement de l'ordre de la propagande, c'est de l'ordre du prestige. C'est un moment où on croit profondément que la culture a à voir avec le prestige, sert le prestige. C'est une autre sphère que celle du goût. Le goût des rois valois est un goût plus modeste, plus septentrional, etc. Mais quand ils sont dans cet espace à la fois politique, mythique et mythologique, qui est le château royal, alors là, ils ont un sentiment de restauration impériale dont ils devaient être les agents, les acteurs, et ça passe par, effectivement, la création de grands décors avec des sujets poétiques, épiques, héroïques, qui sont érotiques aussi, bon, qui relèvent véritablement de cette ambition impériale. Enfin, c'est cette idée de renouer avec le passé le plus digne, le plus noble, le plus ancien. Bon. Et Dubreuil, il se trouve face à ça. Ruggiero de Ruggieri, il faut le dire, a été
formé par Primatis.
Il a été le collaborateur de Primatis. Il a été entre 1557 et 1570, collaborateur privilégié avec Niccolo dell'Abate de Primatis. Il était peintre. En 1570, quand Primatis fait son testament, il ne transmet pas ses dessins et son matériel de peintre à Niccolò dell'Abate, qui est un homme de sa propre
génération.
Mais à Ruggiero de Ruggieri, ça passe à Dubreuil.
Bon. C'est un bel héritage.
C'est un formidable héritage, d'autant que dans l'héritage, il y a des dessins de Michel-Ange.
Oui, en passant par Primatis.
Primatis avait eu la chance de mettre la main en 1532 sur des dessins de Michel-Ange qui avaient été apportés en France par un élève de Michel-Ange, Antonio Mini. Et ces dessins sont restés à Fontainebleau. Primatis s'en est servi. Ruggiero de Ruggieri s'en est servi. Et ça va passer à Dubreuil, et Dubreuil va s'en servir.
C'est comme ça que vous évoquiez dans votre catalogue, peut-être que c'est avec cette école-là que Dubreuil a appris le fondu des dessins finis à la sanguine qui font tant penser à Michel-Ange. C'est là, dans la seconde école de Fontainebleau, que ça s'est passé.
Alors, c'est un héritage de la seconde école de Fontainebleau. La seconde école de Fontainebleau, si vous voulez, c'est justement les artistes qui vont travailler en même temps que Dubreuil à Fontainebleau.
Oui.
Vous avez évoqué Fréminet, on pourrait évoquer Ambroise Dubois. C'est ces artistes qui vont travailler au plus tôt dans les toutes dernières années du règne d'Henri III et qui vont surtout travailler pour Henri IV après la pacification du royaume, après 1594, après l'entrée du roi dans Paris. Et qui vont travailler jusque dans les années 1610-1620.
Oui, oui, oui.
Dubreuil est un malheureux, il meurt en 1602. Et donc, cette seconde école de Fontainebleau, on ne l'appelle pas seconde pour rien, c'est qu'elle a effectivement hérité de la première. Non seulement ils travaillent sur les mêmes chantiers, mais aussi il y a eu un vrai travail de transmission, j'allais dire patrimoniale, hein, de l'outil de travail de Primatis à Ruggiero de Ruggieri, Ruggiero de Ruggieri à Toussaint Dubreuil, et puis ensuite ça passe, comme on l'a vu, aux collectionneurs.
Il était doué, certes, mais il travaillait beaucoup puisque, en fait, il a appris l'anatomie du corps masculin. Il a été chez un barbier, enfin chez un chirurgien, puisque c'était comme
c'est
ça.
C'est tout un.
Oui, et il a fait la connaissance du corps, des muscles, des mouvements. Et hors antenne, vous me disiez, Dominique Cordelier, que vous évoquiez le fait que c'était un coup double pour lui, ce travail chez le barbier.
Oui, c'est à la fois un coup de force et un coup de théâtre que d'arriver à faire que l'anatomie, que le corps humain devienne une machine, à travers son étude même, quelque chose qui est entre, effectivement, emphase corporelle et dynamique du corps. Hein. Il y a l'idée qu'il faut que le corps, une fois qu'il a été analysé, savamment analysé par Dubreuil, alors effectivement, chez un barbier, on ne sait pas à quel moment de sa carrière il fait ça, mais enfin, chez un barbier, donc chez un chirurgien barbier, hein, c'est la même corporation. Ce corps qu'il a disséqué, qu'il a analysé, bon, il faut lui rendre, je veux dire, une noblesse, une énergie et une expression que le corps mort, évidemment, n'a pas. Et toute cette étude sur le cadavre, en fait, ne sert qu'à ça.
Qu'à le rendre vivant.
Être juste et à le rendre vivant et à le rendre expressif au-delà même de tout ce que l'on peut concevoir sur des bases anatomique stricte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de nécessité, de souci d'outrepasser ce que la nature a donné par l'art.
Donc il peut les raccourcir, les réduire, mais ils sont toujours aussi élégants. Il peut donner une espèce de profondeur à ses corps et à ses dessins grâce à ça.
Oui, parce que l'autre outil, ce n'est pas simplement l'analyse anatomique du corps rigoureuse, qu'il mène d'ailleurs de façon très savante, puisqu'il va même jusqu'à illustrer un traité d'André du Laurens, qui est le chirurgien du roi, hein, qui va publier en 1600. Tout ça, ça resterait un peu lettre morte si ça n'était pas doublé d'une science de l'espace, un sens de la... Alors nous, on dirait perspective, c'est réducteur. Il ne s'agit pas simplement d'une construction géométrique, tridimensionnelle, convaincante. Il s'agit véritablement d'une science du mouvement.
Oui, un peu jaillissant.
Mouvement très jaillissant, très enthousiaste, hein, dans la construction même du corps dans l'espace. Et ça, c'est vraiment ce que Dubreuil a en commun avec toute une génération d'artistes, disons, actifs autour des années 1580-1610, au nord des Alpes. Dubreuil est absolument l'équivalent des grands artistes maniéristes qu'on peut trouver à Harlem. Alors on pense à Goltzius, on pense à Cornelis van Harlem. C'est l'équivalent aussi des grands maniéristes d'Utrecht. On pense à Abraham Loumart, ou aussi l'équivalent plus connu peut-être du public. Et c'est tout à fait...
De Dürer ?
Ah non, Dürer c'est beaucoup plus
tôt. Parce qu'il y a un tableau...
Non,
Dürer c'est 1500, mais...
En évoquant ça, je pensais plutôt à l'école de Prague. Tous les artistes
D'accord.
qui travaillent pour Rodolphe II, autour de Spranger, Hans van Aeren, ces artistes-là. Et vous avez raison à ce moment-là d'évoquer le nom de Dürer, parce que tout en étant des artistes, j'allais dire, du dernier maniérisme, du dernier souffle, de la grande manière, ce sont aussi des artistes incroyablement savants, cultivés, qui regardent, j'allais dire, dans le rétroviseur pour voir ce qu'il y avait avant eux, et en particulier qui, dans les années 1585, 88, 90, vont avoir le souci de revenir d'une manière ou d'une autre au grand modèle, disons, prestigieux des années 1510-1520, en particulier Durer et du Canelède. Bon, modèle diffusé, très bien diffusé par la gravure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont faire quasiment des pastiches, mais en changeant complètement l'échelle. C'est-à-dire que ce qui était haut de 5 cm chez Durer, ça devient haut de 25 ou 30. C'est des grandes têtes expressives, travaillées à la plume, avec un métier qui ressemble fort à celui du Burin.
Qui appuie beaucoup plus.
Très appuyé, très expressif, très emphatique. On est dans des gens qui n'hésitent pas à montrer et à démontrer en même temps. Et c'est vraiment des artistes qui ont cette capacité à la fois d'être de grands novateurs, tout en étant
de grands héritiers.
Tout en étant de grands héritiers.
Vous parliez du nord des Alpes, mais parlons du sud. A-t-il fait le voyage en Italie? Point d'interrogation.
Si on regarde les documents, on n'a pas d'éléments. Si on regarde les sources, les textes qui ont été écrits jusqu'au XVIIIe siècle sur lui, on n'a pas d'éléments non plus. Si on regarde sa génération, les artistes qui sont ses contemporains et qui sont actifs en France en même temps que lui ou juste après lui, beaucoup, vous parliez de Martin Fréminet, on pourrait dire Jacob Bunel, on pourrait dire chez les sculpteurs Biard, beaucoup ont fait le voyage d'Italie. Ça serait vraisemblable. Et on a un trou, j'allais dire, dans la biographie qui permet, dans les documents, on a la dernière trace de Dubreuil en 1585, à un moment, et puis un silence dans les documents. On ne retrouve qu'en 1593, à Fontainebleau, il est parrain à Avon, du fils d'un collègue. Dans cet intervalle-là, effectivement, il a pu faire le voyage d'Italie. Et si on regarde alors cette fois, et c'est ce qu'il faut faire au fond, parce que c'est l'œuvre qui doit nous
qui est guidée et qui
va nous parler
sa vie.
Oui, c'est ça, c'est l'œuvre qui va nous parler de l'homme. Quand on regarde dans les dessins de Dubreuil, alors plusieurs constats intéressants. Il y a des dessins qui sont sur du papier italien et qui sont précisément dans ces années-là, 1588.
Alors, papier italien, c'est-à-dire...
C'est un papier de fabrication italienne, alors que Dubreuil, en général, les autres dessins se sont faits sur des papiers français.
Est-ce qu'il y avait une différence de la région technique, de Troyes, une couleur, qu'est-ce qui pouvait...
Non, il y a des différences de marque de fabricant, c'est tout.
C'est tout.
Donc, c'est le filigrane qui indique qu'on a là à faire un papier qui sort d'un moulin, enfin d'un abattoir italien, et non pas d'un abattoir installé sur la Seine du côté de Troyes.
Donc, il dessine sur des papiers italiens tout à coup.
Déjà, il y a un
alors,
moment...
Alors ça, c'est une piste.
Et dans les bonnes dates. Et puis l'autre style, l'autre piste, elle est stylistique, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que Dubreuil est très bien informé de ce qui se passe à Bologne dans les années 1580, on va dire de 1583 aux années 1590. Ça tombe très bien. Alors qu'est-ce qu'il regarde?
Est-ce que c'est l'époque des Carraches?
C'est déjà l'époque des Carraches et c'est encore l'époque de Passarotti. Alors, premier indice intéressant... On a dit qu'il était apparenté à Ruggiero de Ruggieri, il est probablement son gendre. Ruggiero de Ruggieri est d'origine bolognaise, il vient de Bologne.
Donc, l'école de Bologne...
Il a de la famille par alliance à Bologne.
Et là-bas.
Bon, première chose. Deuxième chose, s'il a été à Bologne, il s'est très fortement intéressé à un artiste qui dessine à la plume, qui fait des dessins très expressifs à la plume, qui est Bartolomeo Passerotti. Et Passerotti était, parmi les gens restés à Bologne, un des jeunes amis de Francesco Primaticcio, qui lui aussi... celui qu'on appelle en France le primatiste, c'est Francesco Primaticcio. Il est bolognais d'origine. Et il passe son temps à faire l'aller-retour entre Fontainebleau et Bologne. Bon, donc, un contact stylistique avec l'œuvre d'un artiste bolognais, Bartolomeo Passerotti, très apprécié de Primatis. Tout ça se passant dans la ville du beau-père de Dubreuil, Bologne. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est qu'à un moment, on voit notre Dubreuil s'intéresser à une façon de dessiner.
Nouvelle.
Et j'allais dire nouvelle à l'échelle européenne, une façon de dessiner très librement au lavis, hein, donc une dilution d'encre comme ça, passée au pinceau, de façon très fluide pour créer des
avec
ombres.
Avec des ombres qui s'étirent mais qui ne se cassent jamais.
Voilà, une sorte de nappage d'ombre très étonnant, des réserves blanches très flamboyantes dans ces zones d'ombre, des simplifications, des petits signes apportés à la plume pour simplement faire sortir la forme signifiante de ce qui pourrait être pratiquement de l'art informel. Et cette façon de dessiner...
Il creuse.
Les trois Carraches, qui sont des gens de la jeune génération, par rapport à Passerotti, par rapport à Ruggiero de Ruggieri, et plus encore, bien sûr, par rapport à Francesco Primaticcio, les Carraches la mettent en œuvre à partir de 1583-84 au Palais Fava, et en 1590 au Palais Magnani. Et dans l'exposition, on a tenté quelque chose de très simple, c'est de rapprocher tout simplement un dessin, une étude pour la frise sur l'histoire de Romulus et Rémus du Palais Magnani, 1590, d'un dessin de Dubreuil, disons des années 1600. Et, j'allais dire, la parenté, la quasi-gémellité de facture entre les deux feuilles est incroyable. Elle est troublante. Si on n'y en avait pas de bons documents pour l'un et de bons documents pour l'autre, on risquerait la confusion. Ça prouve que...
En tout cas, s'il n'a pas été là-bas, il en a été nourri, pétri.
Et fort bien informé.
Oui,
alors,
informé.
Les dessins peuvent toujours circuler, mais quand il y a autant, j'allais dire, de points d'attache à une culture, il est quelquefois... économe de la part de l'historien de formuler l'hypothèse, opératoire au moins pour un temps, que l'artiste s'est déplacé. C'est ce que j'imagine.
On a envie de vous croire. Je voulais aussi que l'on parle maintenant de l'histoire d'Hercule. Parce que Hercule, en France, c'est pas n'importe qui. À l'époque, ça a été Henri IV aussi. Mais nous avons, nous, tout un fond culturel, politique, qui montre que le roi, c'est Hercule. Ben, je schématise peut-être, mais lui, en tout cas, il a parlé d'Hercule. Est-ce que vous avez dans votre exposition un tableau représentant Henri IV en Hercule, qui n'est pas de Dubreuil ? Est-ce que vous pourriez l'évoquer, ce tableau ?
Oui, bien sûr. Il s'agit d'un tableau qui a été récemment acheté par le musée du Louvre. Un tableau qui est anonyme. Aujourd'hui, je dois dire, il est anonyme un peu par prudence, parce que mes collègues du département des peintures qui ont étudié l'œuvre, tout en notant la grande parenté de facture avec le style de Toussaint Dubreuil, n'ont pas trouvé exactement le petit quelque chose voilà, dans la pâte qui fait que. Mais bon, le tableau, c'est un tableau de pas très grande dimension, peut-être 1,20 m de haut sur 80 de large, c'est pas un tableau immense, a exactement l'iconographie d'un tableau, alors qui était beaucoup, beaucoup plus grand, de Louis Poisson. Et Louis Poisson, c'est un artiste qui a travaillé à la suite de Dubreuil à Fontainebleau, on ne connaît presque plus rien de lui. C'est possible que ce soit Louis Poisson, petite version d'un grand tableau documenté par ailleurs, mais perdu. Ce tableau, il a la particularité, effectivement, de montrer, selon une tradition iconographique ancienne, disons ancienne pour le XVIe siècle, de montrer donc Henri IV sous les traits d'Hercule ou Hercule sous les traits d'Henri IV. Je ne sais jamais dans quel sens il faut dire ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on ne sache pas dans quel sens il faut le dire, ou en tout cas que je ne sache pas comment il faut le dire, parce que, effectivement, ça prouve une profonde assimilation de l'un à l'autre. Alors, ça n'était pas complètement neuf. Sous Henri IV, les Valois avaient utilisé l'image, notamment l'image de l'Hercule gaulois, de l'Hercule qui arrive à lier tout un monde par son éloquence. Et puis, on a, en particulier au dos des jetons, au dos des médailles, beaucoup d'images herculéennes qui sont le revers d'effigies royales, de profils royaux. Donc, en faisant cela, l'artiste proche de Dubreuil, peut-être Louis Poisson, réactive une formule qui est déjà bien installée. Ce qui est très particulier, c'est qu'on voit là Hercule, vainqueur de l'hydre de Lerne. Et en fait, cette hydre n'est rien d'autre qu'une figure de la Ligue.
Bien sûr. Henri IV a rassemblé la France, écrasant la Ligue et ralliant les protestants.
Et ralliant les catholiques
à lui.
Et s'aliénant pas trop les protestants par son changement de confession. Ce qu'il y a de très étrange dans ce tableau, c'est qu'aujourd'hui, c'est un tableau qui est très difficile, un peu délicat à déchiffrer pour le public le plus nombreux qui passe dans les salles du Louvre. L'homme qui est représenté à l'antique, donc le costume à la romaine est perçu par le public comme un costume féminin, comme s'il était...
Oui, parce qu'Henri IV est en jupette.
Ah oui, c'est ça, voilà. On a cette
jupette bleu ciel, en plus.
Par emphase rhétorique, l'artiste a donné un déhanché à la figure qui achève de féminiser la silhouette du personnage, alors qu'effectivement, on peut camper sur ses épaules herculéennes. On a la tête bien reconnaissable de vieux barbu d'Henri IV.
Henri IV, qui ne prête pas à confusion. J'avais aussi beaucoup apprécié dans cette exposition tout ce que Dubreuil a fait dans le cycle de la Franciade. Parce qu'il y a le héros partout qui s'appelle Francus. Il a dessiné ça en image. Il a mis en image l'œuvre de Ronsard À quoi ça correspond aussi, tout ça?
Alors, comme vous le disiez, Ronsard a été un poète très proche de la personne du roi à l'époque de Charles IX. Et pour Charles IX, Ronsard avait entrepris quelque chose d'absolument fou, de magnifique, quoi qu'on en dise, dont il reste aujourd'hui les quatre premiers livres de la Franciade. Alors, c'était un travail d'une ambition démesurée. Il voulait d'abord doter la France d'une grande épopée propre.
Digne de l'Énéide, mais à la française.
À la française, une grande épopée à la française, voilà, c'est ça. Et qui soit digne de l'Énéide. Et dans ce poème, il avait l'ambition de renouer avec une vieille idée qui était que les rois de France étaient les descendants des Troyens, étaient les descendants d'Hector. Hector
du fils d'Hector,
Astyanax. Et pour ça, donc, il invente que Astyanax, 20 ans après la chute de Troie, a été rebaptisé Francus, que son oncle Héléna le convoque un jour, que les dieux ont prescrit à ce Francus de partir sur mer pour connaître sa destinée, qui est effectivement d'arriver en Gaule et de fonder la dynastie des rois de France. Et on a, Ronsard s'était donné pour but de décrire non seulement toute l'épopée de Francus à travers la Méditerranée, année, passant par l'île des Corybans, c'est-à-dire par la Crète, et puis arrivant en France, fondant cette monarchie que Ronsard faisait remonter à Pharamond, roi mythique. Bon, et il devait conduire jusqu'à Charles IX. Par chance pour Ronsard, Charles IX est mort, il n'a pas eu à finir son poème.
En 1574, hein, Charles IX est mort. Donc Ronsard s'arrête là.
Il s'arrête, mais il a donné quelque chose d'étonnant dans les quatre premiers livres qui prête à malentendu aujourd'hui. Il est convenu, dans les histoires de la littérature, de penser peu de bien de la Franciade. Et c'est vrai qu'on n'est pas porté par l'enthousiasme quand on lit la Franciade, si on veut lire ça comme une nouvelle Énéide.
Pasturio et glogue et tout ça, non.
Ben, je dirais si, entre les lignes, ça peut avoir cette dimension pastorale. Le texte prend une épaisseur absolument incroyable si on le lit non plus comme une tentative d'épopée, mais comme une sorte de roman. Bon, ce roman qui va montrer le jeune Francus partagé entre deux amours, l'amour pour Oriente et l'amour pour Climène, qui sont les deux filles du roi Dicée, qu'il a recueilli après un naufrage dans son île, l'île des Corybans, hein, donc la Crète actuelle, et comment l'une va être une amante malheureuse et comment l'autre va être une amante heureuse, capable par magie de lui révéler sa descendance. Et finalement, c'est ça que Dubreuil prend, c'est le roman. Et il met en image le roman du passé mythique des rois de France. Et cette invention de la peinture romanesque par Dubreuil, c'est une invention très forte. Et c'est une invention très forte du temps d'Henri IV. Henri IV a apprécié, comme Marie de Médicis d'ailleurs, a apprécié que le décor ait cette qualité de fable, cette qualité poétique, cette qualité romanesque. Et c'est assez nouveau. Les artistes de la première école de Fontainebleau, dans le choix des sujets, étaient plus sévères.
Nous avons les dessins, les feuilles, et ça c'était pour la petite galerie du Louvre?
Non, pour la petite galerie du Louvre, il a fait effectivement un grand décor qui a disparu dans un incendie en 1661, dont on ne sait pas bien quel était le programme, mais dont le morceau de roi était une gigantomachie avec des effets de perspective absolument
gigantomachie, donc là il était revenu à ses connaissances du mouvement du corps, etc.
Exactement, exactement. La Franciade, ce grand cycle, on va l'appeler romanesque plutôt qu'épique, il le fait pour la Galerie du Roi et deux pièces attenantes dans l'appartement du roi. La Galerie du Roi qui occupait donc une des ailes du château neuf
de Saint-Germain-en-Laye.
Voilà.
Qui n'existe plus.
Qui est pour l'essentiel détruit. Il reste quelques vestiges, pas toujours facile d'accès d'ailleurs. Et là, il fait quelque chose d'immense. Il a peur de rien, Dubreuil. Il fait 78 tableaux.
Et pourtant, nous n'avons pas beaucoup de traces de sa peinture.
Alors, sur 78 tableaux, après destruction du château au XVIIIe siècle, il reste aujourd'hui donc 22 dessins préparatoires, 6 tableaux. 6 tableaux qui ont échappé à la destruction, un peu par chance. 3 sont présentés au Louvre, d'autres sont visibles au château de Fontainebleau. Mais c'est quand même suffisant pour prendre la mesure de la saveur de la peinture, d'une part. Et d'autre part, ça permet de prendre aussi la mesure du talent d'invention de Toussaint Dubreuil, qui dans le cycle de la Franciade donc, arrive à faire sienne la manière des Carrages d'une certaine façon et à produire des compositions absolument étonnantes de classicisme. Lui qui a été d'abord un maniériste minutieux à Paris.
Peut-être faut-il commencer comme ça pour se faire le doigté.
Oui, proche d'Antoine Caron, qui ensuite devient un artiste qui essaie d'égaler les effets de prestige de la première école de Fontainebleau, les effets d'un Primatis, les effets d'un Ruggiero de Ruggieri, dans des pages étourdissantes d'ellipses, de
parfois
grâce.
Parfois, c'est appuyé, etc. quand même. Je trouve que c'est ça qui est extraordinaire chez lui. C'est que c'est gracieux, mais il y a quand même des coups de plume
oui,
appuyés.
Oui, il y a des accents. C'est un énergique. Hein. C'est, quelqu'un, oui. c'est quelqu'un qui a de la force, de la puissance. C'est un artiste qui a une capacité à concentrer, je veux dire, ses moyens sur des choses, c'est ramassé. Donc, un itinéraire incroyable. Ce premier maniérisme un peu timide, parisien, puis une adhésion complète, très forte, à la première école de Fontainebleau, Primatis, Ruggiero de Ruggieri, puis une capacité à transformer ce maniérisme, à le hisser à l'échelle du maniérisme international, disons de Prague, de Utrecht, de Harlem, à l'égal d'un Bolsius ou d'un Spranger, une capacité, une ouverture sur Bologne qui lui permet de s'informer et de ce que Bologne a, disons, de bien installer l'art de Passerotti, mais aussi de plus novateur, l'art des Carrache, et tout d'un coup, tout se ramasse dans cet art, un art incroyable, du lavis, à la fois très libre et très structuré, très construit, qui est véritablement, qui donne le la du classicisme français pour un siècle.
Dans votre catalogue, Dominique Cordelier, vous disiez, je vous cite, « Dubreuil a fait passer tout un pan de l'art français du Primatis à Poussin ».
Ah oui, carrément. Je crois qu'il ne faut, il faut pas
Est-ce
hésiter.
Est-ce par Laurent Delahire, Simon Vouet parce que Poussin, pour nous, c'est le dieu du XVIIe.
Oui, alors je crois que le Panthéon est riche et que dans ce cas-là, il faudra être polythéiste et mettre dans ce Panthéon et Simon Vouet et Lahire à côté de Poussin. Ce qu'il y a de certain, c'est que Dubreuil, il est avant tout ce monde-là. Il a entre 20 et 40 ans d'avance sur tous ces artistes-là. Il est vrai que le jeune Poussin, le jeune Lahire, Simon Vouet à son retour en France en 1627, ont regardé, ont adhéré à cette façon de dessiner qu'a eu Dubreuil dans les toutes dernières années de sa vie. On parle des années 1597-1602. Hein. C'est vraiment, c'est ramassé sur une poignée d'années, presque rien. Et ils ont tout compris. Ils ont tout compris de cette manière à la fois synthétique, brillante, éclatante, très structurée, qui était celle de Dubreuil et qui était très en avance. Il faut voir que l'artiste qui va lui succéder, Martin Fréminet, va rester totalement insensible à cet aspect-là de Dubreuil. Il va être d'accord avec le Dubreuil primaticien, il va être d'accord avec le Dubreuil qui a regardé l'école de Fontainebleau. Ça, oui.
Mais pas.
Mais il va faire l'économie du dernier Dubreuil.
Du dernier Dubreuil.
En revanche, le collaborateur régulier de Dubreuil, qui est Jacob Bunel, en particulier son collaborateur à la Petite Galerie du Louvre, lui, va conserver l'héritage. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est effectivement en position d'héritier. On dit pour la Petite Galerie du Louvre que Bunel a bien suivi les intentions de son devancier, c'est Sauval qui s'exprime comme
il
ça.
Il a su être fidèle.
Il a été d'une grande fidélité. Il a certainement servi de relais, Jacob Bunel, entre Dubreuil et ceux que nous appelons les grands artistes de l'atticisme parisien ou les grands artistes du classicisme français que sont Lahire et Poussin.
Au sujet de la Petite Galerie du Louvre, je voudrais vous lire ce qu'un Anglais, qui n'avait pas forcément beaucoup de gentillesse à dire pour nous les Français, Coriet, parlait au sujet de cette Petite Galerie du Louvre. Il disait « Tout ce que Toussaint Dubreuil réalisa pour le décor de la Petite Galerie du Louvre fut tenu pour si incomparablement beau que l'on ne pouvait s'en faire une idée si l'on ne l'avait vu de ses propres yeux. » Donc, tout de suite, il a été totalement reconnu.
Oui, 1611.
Oui, donc
la publication de
1611,
oui. Coriet's Crudities. C'est un témoignage capital parce qu'il nous fait partager un sentiment qui était celui des contemporains de Dubreuil, que la Petite Galerie du Louvre, donc qui a précédé l'actuelle Galerie d'Apollon, hein, la Petite Galerie du Louvre a disparu dans un incendie, je crois, en 1661, date à vérifier.
Je crois que c'est ça, parce que j'avais toujours mis dans ma tête que c'était l'année du décès de Mazarin, mais que ce n'était pas à cause de Mazarin.
Et donc cette petite galerie a brûlé au cours des préparatifs d'une fête, a fait disparaître ce qui passait avant l'un des plus beaux décors qui soit en Europe.
C'est très triste pour nous tout ça. Vous disiez aussi que Dubreuil a été, ça sera notre conclusion, Dubreuil a été à la peinture française, moins la sévérité, ce que Malherbe a été à la poésie. Alors que vouliez-vous dire pour là ?
On peut considérer Toussaint Dubreuil dans une position historique parallèle à celle de Malherbe. Vous savez que le jeune Malherbe est un poète qui adhère, disons, à la poésie de la Pléiade. Il est plutôt du côté d'une...
Des petites fleurs
Oui, la Pléiade, c'est plus que ça. Hein. On peut difficilement ramener la Pléiade, disons, à une poésie simplement fleurie, charmante, bucolique, avec tout ça. Il y a effectivement, dans les pièces les plus populaires de Ronsard ou de Dubellay, plus chez Ronsard d'ailleurs que chez Dubellay, il y a cette grâce, cette légèreté, etc. Bon, il y a, de façon générale, dans la poésie de la Pléiade, un sens de l'artifice, hein, au meilleur sens du terme d'ailleurs, qui est un peu comparable au début maniériste de Toussaint Dubreuil. Mais à terme, Malherbe va essayer de raisonner le travail poétique, de le contenir, d'empêcher que l'épanchement aille vers des images trop audacieuses, trop canoniques. Et il va essayer de trouver...
Va nous emmener vers le classicisme.
Il va essayer d'installer au sein de la poésie une dimension à la fois lyrique et impersonnelle. Et dans ce sens-là, effectivement, préclassique, voire même classique, et qui sert véritablement de socle à ce que va être la poésie du grand siècle, notamment, mais pas seulement, dans son expression théâtrale. Dubreuil fait la même chose. Quand il va vers des formules, quand en 1600, 1602, il en est à des formules qui sont celles de Poussin pour la rigueur du dessin, il a fait ce travail de normalisation, j'allais dire, de réflexion et de raisonnement sur la capacité du peintre à contenir ses moyens pour arriver à atteindre des effets supérieurs. Et c'est ça la grande leçon de Dubreuil.
C'est un peu de la philosophie, ça.
Et son parallélisme avec Malherbe. La différence, elle est notable, malgré tout, c'est que Malherbe est un prescripteur. Malherbe dit comment il faut faire.
Il est un peu normatif.
Il est normatif. Ce que Dubreuil n'est pas. Dubreuil échappe au temps des académies. Il n'est pas, alors c'est peut-être singulier de le dire sur cette antenne, mais il portait une forme de préclassicisme qui aurait pu faire l'économie de la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture comme espace de rationalisation de la peinture.
C'est donc un personnage incroyablement fondateur pour notre art. Pour français notre... du XVIIe et des siècles après.
Oui, c'est d'ailleurs tout à fait étonnant. Je veux dire, les historiens de la littérature ont l'habitude de dire que Malherbe a compté loin de son temps pour quelqu'un comme André Chénier et pour beaucoup de poètes du XIXe siècle. Et c'est assez frappant quand on visite l'exposition de voir ici ou là un dessin dont on se dit « Oh, j'aurais pensé plutôt à Girodet ». Ce qui est une façon pour que c'est comme penser à Chénier pour Malherbe.
Oui,
devant tel autre dessin, « Oh, j'aurais pensé à Carpeau ». Des dessins faits à la plume, comme ça. Bon, des artistes du XIXe siècle. C'est dire cette espèce de modernité sans époque que Dubreuil a pu atteindre à certains moments. Et en installant l'exposition, il y a eu une très bonne surprise, c'est que l'exposition est conçue avec des confrontations, avec des dessins d'autres artistes. Et là-dedans, on a mis à côté de dessins de Dubreuil, on n'a pas hésité, quand c'était nécessaire, à mettre un dessin de Michel-Ange, ou ailleurs un dessin de Simon Vouet, ou ailleurs un dessin d'Annibal Carrache, ou ailleurs encore un dessin de Passerotti. Et à chaque fois, c'est des artistes qui ne se ressemblent pas. Aucun de ces artistes ne se ressemble. Mais à chaque fois, dans la confrontation, Dubreuil, comme on dit dans notre jargon, tient. Et être finalement, entre 1580 et 1602, un artiste qui arrive à tenir face à Michel-Ange, qui arrive à tenir face à Carrache, et qui arrive à tenir face à Simon Vouet,
c'est pas si mal.
C'est pas si mal.
Merci Dominique Cordelier. Vous avez bien plaidé la cause de ce personnage unique.